ciel est tout bleu et le vent léger. Tous ces braves gens divaguent. Je me moque bien d'ailleurs du danger, car je n'ai pas peur des vagues. Il ne savait pas qu'à côté de lui, un canard faisait trempette. Pour notre bateau qui était si petit, cela fit une tempête. Et rapidement, je vous en réponds, les événements se gâtent. L'eau s'est engouffrée dans les entrepôts. Adieu la jolie frégate. Sauf qui peut crier le navire en détresse. Sauf qui peut, je ne vais plus jamais revoir le beau ciel bleu. Et tout en pleurant sa vie d'autrefois, le petit bateau chavire. Ça prouve qu'il faut demeurer chez soi quand on n'est qu'un petit navire.
Radio Libertaire 89.4 FM, c'est la radio de la Fédération anarchiste. Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans la nouvelle émission Média et Antifascisme. Donc c'est une émission présente tous les deuxièmes vendredis de chaque mois à 11h30, donc sur Radio Libertaire 89.4 FM en Ile-de-France, sur internet sur radio-libertaire.org et sur anarchiste.info/radio/. Libertaire. Alors pour nous joindre, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail medias-et-antifascisme@protonmail.com, donc médias au pluriel et antifascisme au singulier. Vous pouvez aussi nous écrire sur notre compte Facebook, alors qui n'a toujours pas changé de nom parce que en fait notre émission découle d'une ancienne émission qui passait sur Radio Libertaire voici 4 ans et qui s'appelait Actualités antifascistes. Donc on n'a pas réussi à changer le nom de la page, donc du coup le Facebook s'appelle toujours Actualités antifascistes, hein, tout au pluriel. Vous pouvez nous écrire par ce biais-là. Autrement, vous pouvez aussi nous écrire sur X, donc c'est anciennement Twitter, et le at c'est média au pluriel tiré du 8 Antifa au singulier. Et vous pouvez également nous écrire par courrier à l'adresse de la librairie du Monde Libertaire Publico, c'est au 145 rue Amelot, 75011 Paris. Je vous rappelle aussi que pour soutenir financièrement la radio, vous pouvez aller sur radio-libertaire.org dans la rubrique « Nous soutenir », télécharger le bon de souscription et le retourner complété au 145 rue Amelot, 75011 Paris, ou bien vous pouvez envoyer un chèque à l'ordre de DMC. Donc cette nouvelle émission Médias et Antifascisme prend la suite d'Actualités antifascistes qui émettait sur cette même radio donc de janvier à novembre 2020. Et donc, si nous décidons de reprendre l'antenne, c'est pour dénoncer la droitisation, voire l'extrême droitisation des médias, avec la diffusion des idées réactionnaires qui vont avec, hein, sur de nombreuses chaînes de télévision, stations de radio, sites internet et journaux papier. Alors, en effet, nous, on pense que la situation actuelle est quand même assez préoccupante, hein, déjà parce qu'elle est politiquement assez confuse. Elle est montée par la montée du Rassemblement National et de ses associés, les Républicains, alors aux dernières législatives, entre autres. Alors, même si on a eu la nomination d'un Premier ministre de droite non issu de l'alliance entre le RN et les Républicains, bon, voilà, ça reste... déjà, ça reste une situation assez inédite, hein, parce qu'on le sait, le nouveau Front Populaire est arrivé en tête. Et donc, bon, voilà, nous, ce qu'on pense dans tous les cas, c'est que cette situation, elle est quand même assez... Elle renforce une instabilité politique assez prononcée. Et donc, si elle renforce une instabilité politique, forcément, le poids de l'extrême droite dans les médias et en dehors s'en trouve renforcé. Ce premier numéro donc de Médias et Antifascisme est consacré au maire de Béziers, Robert Ménard, élu en 2014, soutenu par le Rassemblement National, par Nicolas Dupont-Aignan également, par Philippe de Villiers. Donc Robert Ménard a été élu sans étiquette, certes, mais pas sans soutien. Robert Ménard, pour le présenter brièvement, c'est un journaliste de métier, ancien président de Reporters sans frontières, fondateur du site Boulevard Voltaire et intervenant réguliers sur des médias, je vais les citer rapidement, hein, comme RMC, RTL, Europe 1, CNews ou encore Sud Radio. Et donc pour notre part, en fait, Robert Ménard, il s'avère qu'il s'agit d'un artisan assez important de ce que l'on peut appeler l'union des droites. C'est aussi le président de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée. Donc pour notre part, effectivement, Robert Ménard incarne quand même une figure assez visible du nationalisme en France. Et pour en parler, notre invité aujourd'hui, c'est Daniel Kupferstein. Alors déjà, bonjour Daniel.
Bonjour.
Alors, Daniel, excuse-moi, je vais te poser la question d'emblée. Est-ce que ton nom se prononce Kupferstein ou Kupferstein? Parce que j'ai envie de t'appeler correctement.
C'est comme on veut. En fonction des gens, Kupferstein ou Kupferstein. C'est comme... Les deux manières arrivent à la même personne. Donc... Moi j'ai l'habitude de dire Kupferstein, mais dans ma famille ils disent Kupferstein, certains de ma famille disent ça, donc c'est pas un problème.
Oui, dans tous les cas, pendant l'émission, je t'appellerai Daniel, donc comme ça le problème sera...
Voilà, comme ça c'est plus simple, voilà. C'est un peu l'habitude.
Ok, alors pour te présenter brièvement Daniel, donc tu es l'auteur d'un film qui s'appelle Béziers, l'envers du décor, hein, et qui sera diffusé samedi 19 octobre à 16h à la librairie du Monde Libertaire, donc je rappelle l'adresse, hein, c'est au 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris, au métro République, Oberkampf et Filles du Calvaire. Alors Daniel, toi tu as notamment réalisé un documentaire qui s'appelle Les balles du 14 juillet 53, qui a été passé à la librairie donc du Monde Libertaire en 2019, à propos de la répression meurtrière d'une manifestation organisée à Paris par le Parti communiste et la CGT, dans laquelle se trouvait un cortège du mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques algériens de Messali Hadj. Tu es aussi réalisateur d'un reportage sur la souffrance au travail et sur les massacres du 17 octobre 1961 à Paris, entre autres, hein, parce que tu as réalisé quand même beaucoup, beaucoup de films. Notre émission d'aujourd'hui donc, est consacrée sur celui à propos de Béziers. Et alors, ce film donc, montre l'ascension de Robert Ménard, sa gestion municipale. Dans un tout premier temps, Daniel, j'aimerais quand même revenir sur l'histoire électorale de cette ville et de cette région, parce que, d'après mes recherches, il s'avère que jusque dans les années 90, le Biterrois, c'était quand même un territoire qui votait beaucoup à gauche, donc socialiste, communiste, par exemple jusqu'en 1983. Oui, Daniel ?
Oui, non, on appelait ça le Midi Rouge pendant un moment.
Tout à fait, exactement. C'est exactement ça, justement parce que le territoire votait quand même beaucoup à gauche, comme je l'ai dit, socialiste, communiste. Jusqu'en 83, parce que je vais le dire tout de suite, mais Béziers a eu un maire communiste de 1977 à 1983. Avant ça, il y a eu aussi des maires qui étaient issus de ce qu'on appelait le radicalisme ou encore le radical socialisme. Je vais citer un livre là qui s'appelle La République et ses symboles, qui est en accès libre sur le site Open Edition. On a un chercheur qui s'appelle Fabien Nicolas qui indique que ce vote assez marqué à gauche remonte au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851. Enfin, en tout cas, on va dire que l'histoire électorale de la région remonte à ce coup de force qui était à l'époque de la Deuxième République. D'après donc ce chercheur, Béziers a été très mobilisé contre le renversement de cette Seconde République. Et d'après un auteur qui s'appelle Richard Vassakos et qui a écrit un livre qui s'appelle La croisade de Robert Ménard aux éditions Libertalia.
Très bon livre.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et justement, ce qu'il dit, comme tu viens de le dire, Daniel, la ville incarnait, d'après lui, je cite, durant de longues années, une certaine forme de Midi Rouge. Déjà par le biais de son vote, mais aussi parce que c'était quand même c'était une ville entourée de campagnes viticoles et qui donc était largement acquise au Parti ouvrier, socialiste et communiste. J'ai cité les différentes formations qui ont pu se partager le pouvoir de 1932 à 1995, les communistes, les socialistes, les radicaux et radicaux socialistes. Mais depuis 2014, la ville est tombée entre les mains de l'extrême droite à travers un maire soutenu par le Rassemblement National. Donc Daniel, comment est-ce que toi tu vois ce basculement politique dans une région qui donc était quand même apparemment acquise de longue date à la gauche, au socialisme ou encore au communisme?
Je suis pas un spécialiste de l'analyse politique de l'ensemble de la région. Ce que je sais, c'est que d'abord il y a eu un maire de droite avant Robert Ménard, et de la droite un peu dure déjà, et que le glissement, on va dire, de la gauche à la droite, il se fait progressivement, petit à petit, devant la situation sociale, économique, où les réponses de la gauche visiblement ne suffisent pas, et une partie de l'électorat d'abord s'abstient, et puis une autre partie commence à glisser vers les solutions prônées par la droite. Et puis comme les solutions n'arrivent pas, et ben petit à petit arrivent des gens comme Robert Ménard, ou dans d'autres endroits c'est un peu la même chose, soi-disant répondre aux aspirations des gens en nommant des boucs émissaires qui sont essentiellement les étrangers. Et du coup c'est un phénomène qui me semble un peu national, mais qui est marqué dans toutes les régions pauvres de la France, c'est-à-dire que où on voit les disparités énormes qu'il y a dans le nord, dans l'est, entre les riches et les pauvres, et dans ce sud. Il faut rappeler que Béziers est une des villes les plus pauvres de France. Je crois que c'est la troisième plus pauvre. Elle est encore plus pauvre, mais elle est pas loin de la dernière place. Et parce qu'il y a des disparités énormes entre la population riche et la population pauvre. Voilà. Et donc du coup, une partie de gens cherchent des solutions autour de l'extrême droite en pensant qu'en s'en prenant aux étrangers, ça solutionnera leur problème. Voilà. Oui. Voilà mon point de vue.
Alors justement, la situation sociale, j'y viens immédiatement. Alors juste avant, je demande pardon à toutes nos auditrices et à nos auditeurs, parce que j'avais laissé le téléphone en haut-parleur. Donc à mon avis, vous avez dû entendre un écho. Là, c'est bon, j'ai réglé le problème. Donc a priori, on va t'entendre clairement, Daniel. Mais on t'entendait clairement. C'est juste qu'à mon avis, il y avait un écho assez compliqué, assez pénible à entendre. Bon, pour ce qui est de la situation sociale à Béziers, justement, d'après l'INSEE, le taux de chômage dans cette ville est de 21,8% en 2021. Le taux de pauvreté, c'est 40% pour les moins de 35 ans. Dans ton film, le centre-ville donc apparaît rénové malgré quand même de nombreux commerces à l'abandon. Hein. Et alors il y a le journal municipal là, le journal qui s'appelle le journal du Biterrois, qui s'appelait avant le journal de Béziers. Alors qui semble quand même assez largement servir d'outil de propagande et qui relaie des attaques. Alors qui relayait des attaques contre la communauté d'agglomération jusqu'à ce que Robert Ménard en devienne le président. On voit aussi que le journal utilise le plus possible, vraiment, à satiété, on va dire, les couleurs bleue, blanche et rouge. Il a diffusé...
Le film est construit là-dessus, pour les auditeurs, pour qu'ils comprennent que Béziers est l'envers du décor. Il est construit à partir du journal municipal, le journal de propagande du maire, qui s'en sert vraiment pour sa vision idéologique et politique. Et il est construit en disant qu'est-ce qu'il y a derrière les propos du style le luxe revient à Béziers, le renouveau est là, la ville est embellie, sous-entendu grâce au maire, etc., etc. Et du coup, on a été voir sur place, on a été voir des gens qui contredisent complètement tout ce qui est raconté. Et donc, tout le long du film, on est sur cette situation, quoi, sur ce décryptage, décortiquage, comme on veut, d'une réalité présentée d'une manière propagandiste, on va dire, par le maire, voilà. Et c'est pas triste.
Oui,
quand on commence à gratter.
Je confirme, hein, parce que déjà dans ce journal, parce qu'effectivement, aujourd'hui, en 2024, ça fait quand même 10 ans que Robert Ménard est maire de Béziers. Donc, et ça fait 10 ans que ce journal, franchement, multiplie ce qu'on peut appeler des outrances, ou en tout cas des.
Voire des mensonges.
Ah oui,
mensonges.
Ça, c'est. Franchement, ton film, il le montre très bien. Je prends un exemple assez marquant, c'est les pseudo-analyse hein, sur l'arrivée, donc c'était notamment en 2015, de réfugiés syriens et irakiens. Dans ce journal, on parle d'invasion migratoire. On parlait, Robert Ménard parlait aussi.
C'était 40 familles sur une ville, donc c'était essentiellement des Syriens.
Ouais.
Donc qui fuyaient la guerre, hein, entre parenthèses, hein, c'était des gens qui fuyaient la guerre avec des enfants, voilà. C'était 40 familles dans une ville de 80 000 habitants. Donc voilà, Robert Ménard a parlé d'invasion, de grands remplacements, Donc pour essayer de monter la population en disant attention, il y a un danger imminent et c'était hallucinant quoi, c'est-à-dire avec des grandes affiches partout, avec plusieurs articles dans le journal de Béziers et en essayant de faire même un référendum dans sa ville qui a été heureusement interdit à l'époque par le préfet qui était un peu plus clairvoyant que le nouveau, on y reviendra peut-être. Mais c'était hallucinant, voilà, pour 40 familles, 40 familles qui fuyaient la guerre, hein, et qui venaient chercher en France une solution pour un asile futur, voilà.
Faut dire que oui, effectivement, le truc c'est que Robert Ménard, si on peut dire, il a quand même une vision. Il a quand même une vision de sa ville qui est quand même préoccupante, hein, pour le moins, parce que dans le journal, toujours le journal du Biterrois, et d'ailleurs c'était à la même époque, hein, en fait, il évoque un pourcentage d'enfants musulmans dans les écoles publiques de sa ville. D'ailleurs, on le voit bien dans le film, hein, il se fie uniquement et vraiment uniquement sur leurs prénoms. Donc là, tu as répondu à une partie de la question là, que je voulais te poser à la base, mais comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un journal municipal puisse à ce point être utilisé pour diffuser des opinions qui semblent vraiment provenir de fantasmes ou en tout cas de visions déformées de la réalité ?
Je pense que une partie, c'est... Robert Ménard, il flirte avec les limites de la loi. Donc ça, c'est d'une manière globale. À chaque fois, il pousse un petit peu loin... à la limite de la ligne rouge et quand il se fait un peu taper du doigt parce qu'il a dépassé un peu les fondements de notre pays, du coup il revient en arrière en disant excusez-nous, machin, etc. De toute façon, quand il y a un procès c'est pas grave parce que c'est la ville et les contribuables qui payent, c'est-à-dire que c'est jamais lui, hein. Donc du coup voilà, il est dans cette limite. Et puis, on lui permet de... Voilà, c'est-à-dire qu'on ne mène pas vraiment... Je parle au niveau des institutions de la République, c'est-à-dire les préfets qui sont censés garantir la loi, les lois en France, on laisse un peu faire, voilà. Et aujourd'hui, on laisse encore plus faire, voilà, ce que fait Robert Ménard. Et donc là, il a dit un jour, sur un plateau de télé, pour, je pense... dire que c'est vrai, parce qu'il avait calculé les choses, il avait dit qu'il y avait 64,6% d'enfants musulmans dans les écoles. Alors déjà, il y a une anomalie, parce que comment savoir que des enfants sont musulmans, catholiques, juifs, ou simplement athées, déjà, c'est une anomalie. Et lui, il a dit clairement une chose qui est hallucinante pour n'importe qui, en disant, il suffit de se le voir en fonction du prénom. Mais on est où, là? On est dans quel... D'ailleurs, il y a des gens qui lui ont écrit en disant, moi, je m'appelle Malika et je suis d'origine catholique et je comprends pas, je ne vous comprends pas pourquoi vous sanctionnez ou vous mettez une ligne claire entre des enfants qui ont des prénoms avec une religion. Ça veut dire quoi? On va où, là? On va où? Voilà. Lui, il va là. Et visiblement, au niveau des lois, ça bouge pas trop au niveau. Il y a pas, il y a une enquête parce que la police et la justice a voulu savoir s'il tenait des fiches analytiques. Évidemment, il n'en a pas trouvé parce qu'à mon avis, il a lancé ce mot en disant pour être vrai, pour le paraître à la télévision, puisque le mot il était lâché à la télévision, qui était repris d'ailleurs dans le journal de Béziers, hein, mais le mot a été lâché. Et lui, il a essayé de développer une contre-argumentation en disant on n'a plus droit en France de faire des fichages ethniques. Mmh. Voilà. Et c'est ça qu'il faudrait, sous-entendu, on cache la vérité aux gens. Voilà. Ouais. Alors que même ce fichage en fonction des prénoms et une religion, c'est d'une absurdité crasse. Mmh. Voilà. Bah, oui. Je trouve que c'est monstrueux. Et d'ailleurs, les habitants de Béziers avaient organisé de l'année d'après, avec les écoles, avec plusieurs écoles de la ville, une journée des prénoms, la fête des prénoms, où tous les enfants venaient montrer leurs prénoms, expliquer pourquoi leurs parents avaient choisi ce nom, ce prénom, etc. Et c'était, il y a eu une grande fête dans toute la, dans tout un lycée ou un collège, je sais plus quoi, je crois que c'est un collège de la ville, avec plein de familles qui étaient venues pour être fières de leur prénom, quel qu'il soit. Voilà.
Oui. Oui.
C'était une espèce de réponse aux propos ignobles de ce maire.
Tout à fait. Alors, du coup, pour ce fichage, Robert Ménard, alors il était notamment, je vais citer le nom des chaînes, hein, bon après voilà, on n'est pas là pour leur casser du sucre dessus, de toute façon on n'a pas le droit de le faire, théoriquement.
Il y a des moments quand même que, si, je pense que toutes les chaînes ont un code déontologique, oui. Et au moins sur des affirmations mensongères, ouais. Comme le développe Robert Ménard, il aurait fallu des vrais contrepoints.
Oui. Oui.
C'est-à-dire des gens qui viennent dire « mais c'est n'importe quoi ». Ouais. Et ça, c'est au nom de la déontologie. Hein.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, Daniel. Alors, nous, de toute façon, notre émission a la vocation à critiquer les médias. Donc, c'est pour ça que là, je vais citer le nom de certaines chaînes sur lesquelles il est passé. Après, voilà, nous, on s'interdit toute diffamation, évidemment.
Évidemment, il ne faut pas diffamer. Il faut simplement dire, d'un point de vue de la loi, c'est-à-dire que toutes ces chaînes ont un agrément au niveau de l'État avec un code déontologique très précis, et qu'ils doivent le défendre de toute façon en faisant le bilan, et c'est pour ça que CNews a eu quelques petits problèmes récemment, mais c'est quelques petits problèmes, et ce code déontologique, pour moi, il n'est pas du tout respecté.
Non mais je suis tout à fait d'accord.
Je ne fais pas de la diffamation.
Mais parce qu'en fait nous pour des raisons, en fait nous évidemment faut qu'on reste dans les clous de l'ARCOM,
bien sûr.
On peut se permettre de critiquer, mais là encore il faut éviter, vous savez, et je le dis aussi à tous les auditrices et les auditeurs, faut aussi faut vraiment qu'on argumente évidemment au maximum nos critiques, et puis en plus faut éviter de tomber sous le coup des règles liées à la concurrence. Voilà, parce qu'on est... Oui,
parce qu'on est... Oui, je suis d'accord. De toute façon, le plus important, c'est de raconter des faits.
Oui, voilà.
C'est de dire, voilà ce qu'ils font vraiment. Et quand on dit, ils flirtent avec la limite de la loi, c'est vrai. Voilà, c'est un fait. C'est factuel.
Exactement. Robert Ménard, il était passé pour son fichage des enfants musulmans entre guillemets. Donc il était passé par exemple sur France 2, sur RMC, sur BFM TV pour en parler. Faut savoir, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est quand même un intervenant très régulier. Sur des médias nationaux, donc comme celui que je viens de citer, RMC, BFM TV, il y a aussi Europe 1.
LCI, LCI
LCI, CNews, RTL, même TF1. D'ailleurs,
BFM. BFM.
Oui, je l'ai cité. Ouais. Je l'ai cité BFM avec RMC. De toute façon, c'est le même groupe. Et ce qu'il faut quand même. D'ailleurs, je vais m'arrêter deux minutes sur RTL, par exemple. Il faut savoir que d'après ce que j'ai pu observer là ces derniers temps, on peut clairement dire qu'il passe une fois par semaine. Il fait des débats il fait des débats avec Jean-Michel Apathy qui sont d'une qualité, on va dire pas forcément extraordinaire. Ma question, Daniel, tu as répondu en partie, mais pourquoi est-ce que Robert Ménard continue d'être invité aussi souvent sur des stations de radio ou des chaînes de télé de la TNT pour traiter de l'actualité? Quelle justification à son omniprésence médiatique?
Ben, je sais pas, je pense que le fait qu'il était journaliste et qu'il ait entretenu, deux choses. D'abord, le fait qu'il était journaliste, il a entretenu des relations avec certaines personnes, dans les médias. Ensuite, on y arrivera, c'est que depuis qu'il a été réélu maire en 2020 et président de l'agglo, il a commencé à mettre un peu en voyant l'échec, parce qu'il a poussé à ce que Éric Zemmour se présente, et parce que lui voulait être derrière, mais il a pas eu, Éric Zemmour a voulu travailler seul, en tous les cas pas forcément avec Robert Ménard, et du coup après il savait plus, comme il est revenu avec Marine Le Pen, puis comme Marine Le Pen doutait de lui, du coup il a commencé à failloter auprès, il paraîtrait qu'il a voulu aller dans le gouvernement, oui, en espérant que Darmanin soit Premier ministre. Mm-hmm. Il cherchait à avoir une aura, et du coup il entretenait avec certains médias des liens, et de l'autre côté il a mis ce qu'on appelle de l'eau dans son vin, et donc du coup il devenait plus présentable, et donc je pense que ces deux aspects font qu'on le voyait un petit peu moins, mais maintenant on le voit un petit peu plus, surtout que il y a des empires financiers importants qui ont, comme l'empire Bolloré, qui ont des visions qui sont très proches de l'idéologie et la politique de Robert Ménard. Voilà. Donc du coup, on le voit un peu plus sur ces chaînes-là.
Tout à fait. Bah, d'ailleurs, quand tu parles de son espèce de tentative de rapprochement avec Macron, hein, pour être clair, alors on va en parler tout à l'heure, justement, c'est prévu. Ouais. Alors, j'aimerais qu'on se reconcentre de nouveau un petit peu sur Béziers, parce que quand il est arrivé à la mairie en 2014, il a nommé comme chef de cabinet un certain Christophe Pacotte, hein, dirigeant, oui, du bloc identitaire. Et alors, un exemple de ce qu'il est capable de faire localement. Alors, c'était le 27 mai 2014, par exemple, il décide de réserver les activités périscolaires aux enfants dont les deux parents travaillent, et dans le Figaro, il précise qu'il ne s'agit que, entre guillemets, que de l'étude surveillée de 7h30 à 8h30. On découvre aussi dans ton film que l'étude surveillée du soir est facturée 11€ par mois.
Elle était gratuite avant.
Exact. Oui, voilà, t'as tout à fait raison de le préciser. Donc voilà, il demande un effort supplémentaire aux familles bitéroises, et tu l'as expliqué tout à l'heure que Béziers étant l'une des villes les plus pauvres de France, ça pose quand même question. Donc justement, comment est-ce qu'il justifie une telle mesure auprès des bitéroises et des bitérois? Alors lui, il parle, il parle d'économie sur une dépense qu'il qualifie de secondaire. Alors quand il dit secondaire, c'est pour l'étude surveillée du matin, que d'ailleurs il a transformé en simple accueil. Donc voilà, comment est-ce qu'il justifie des mesures pareilles auprès des bitéroises et des bitérois, Daniel?
Comment il le justifie? En disant qu'il faut faire des économies, que la ville est endettée et que, un petit peu comme souvent les maires en tous les cas, qu'il faut faire des efforts. Et donc, comme par hasard, on s'aperçoit que les efforts, c'est essentiellement les populations les plus pauvres. Alors ça, c'est le premier argument. Et comme dans des villes de plus en plus pauvres, comme Béziers, il y a une forte population d'origine étrangère, donc à Béziers, c'est essentiellement maghrébin et un peu gitan, je dis bien d'origine, hein. C'est-à-dire qu'ils peuvent être très bien français, hein. Il veut ne pas les voir réellement. Oui. C'est-à-dire que moins il y en a, mieux ils se portent. Voilà. En tous les cas, c'est comme ça que je le ressens. Mmh. Et du coup, bah, tout ce qui est au niveau social, on coupe. Voilà. Parce que c'est un au fond de lui, il le dit d'ailleurs, c'est un ultra-libéral, puisque il est pour le soutien à Trump. Il est dans ce cadre-là. Il a diminué dès le début les subventions au CCAS.
Centre communal d'action sociale.
Qui s'occupe généralement pour aider les populations les plus pauvres. Il a supprimé des subventions au centre social dans un des quartiers les plus pauvres de la ville, la Devèze. Il est dans ce courant-là qui vise à le libéralisme. Et donc, du coup, quand je disais tout à l'heure qu'il voulait que ce soit le luxe de retour à Béziers, en fait, ce qu'il rêverait, c'est une ville pour riches, voilà, oui. Et virer sa population pauvre. Et d'ailleurs, il a dit qu'il aimerait, il voulait pas d'HLM dans le centre-ville. Il veut recréer la fracture entre riches et pauvres d'une manière encore plus nette. Mmh. En tous les cas, c'est comme ça que je le ressens, moi.
Tout à fait. Justement, pour approfondir un peu tout ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de remonter au début de son engagement idéologique. Mmh. Je cite une date, hein, le 15 octobre 2011. Il participe aux 4e journée de la réinformation, organisée par la Fondation Polémia, dans un livre appelé La Fachosphère, qui a été écrit en 2016 par les journalistes Dominique Albertini et David Doucet. Robert Ménard indique que donc le président de Polémia, qui s'appelle Jean-Yves Le Gallou, lui a soufflé l'idée de créer un site qui s'appelle Boulevard Voltaire. Et donc ce Jean-Yves Le Gallou, très rapidement, il a participé à la campagne présidentielle d'Éric Zemmour en 2022. Il est passé par le groupe de recherche et d'études pour la civilisation européenne. Donc ça, c'est oui, voilà, bah, ça c'est quand même un peu
la
ancien.
La nouvelle droite.
Absolument. Ensuite, ce Jean-Yves Le Gallou est parti à l'UDF. Donc c'est le parti de Valéry Giscard d'Estaing. Ensuite, il est allé au RPR, le parti de Jacques Chirac, hein, à l'époque. Hein, je rappelle que le RPR, c'est actuellement le parti Les Républicains, qui a fusionné en 2002 avec l'UDF. Et donc Jean-Yves Le Gallou, il a terminé, il a bifurqué vers le Front National à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Et après, d'ailleurs, au Mouvement National Républicain de Bruno Maigret, quand il y a eu la scission, là, en 98, si je ne dis pas de bêtises. Et pour finir, en 1974, Jean-Yves Le Gallou, par exemple, il a fondé le Carrefour de l'Horloge,
Le Club de l'Horloge.
Alors, à l'époque, ça s'appelait Club de l'Horloge, mais ça a changé de nom par la suite.
Ah, ça a changé.
Ouais, d'ailleurs, ça existe encore, hein, parmi les figures incontournables du Carrefour de l'Horloge, on a le fameux Henri de Lesquin, que certains et certaines d'entre vous connaissent peut-être. Et justement, tu disais tout à l'heure, Daniel, que c'est depuis 2022, hein, que Robert Ménard multiplie les signes de rapprochement avec Emmanuel Macron, en expliquant par exemple qu'il pourrait devenir un de ses ministres. Comment est-ce que ce revirement se traduit-il à Béziers? Comment est-ce que ça se traduit au niveau local?
Alors, au niveau local, ce qui est, en fait, il a siphonné toutes les voix de la droite.
Oui.
Quand il s'est présenté, il s'est présenté comme le sauveur, comme le renouveau, et on peut dire que, toute la droite de Béziers et des environs a pensé que c'était le sauveur suprême. Sauf quelques personnes de droite qui sont un peu claires par rapport à la manière dont il agit, et du coup ont refusé de le soutenir.
D'accord.
Mais elles sont minoritaires, on a vu ça aux élections où les élections de 2020, il y avait deux listes de droite qui étaient contre lui, plus trois listes de gauche, voilà. Donc du coup, je le vois, je vois qu'il arrive avec ce slogan « Union des droites ». Alors, entre nous, Union des droites, pour lui, c'est l'union qui va de l'extrême droite identitaire avec les pires des pires, on va dire, et puis jusqu'à la droite dite, entre guillemets, républicaine, style Ciotti, Darmanin, enfin Wauquiez, enfin ce courant-là, donc Retailleau, évidemment. Et lui, quelque part, il aimerait être lui au centre de tout ça et en unissant un petit peu tout le monde. C'est un petit peu ce truc-là. Il a essayé de le faire en 2016 avec un mouvement qu'il a essayé de lancer en disant « Ose la droite ». Ou essayer d'avoir les prises de position les plus réac du style suppression des 35 heures, suppression des dépenses publiques et de moins en moins, encore une fois, de moins en moins de soutien social, voilà, et puis de plus en plus de répression généralisée, notamment en direction des populations issues de l'étranger, dans les quartiers, etc. Voilà, il a essayé de développer ça. Ça n'a pas marché. Alors du coup, c'est pour ça qu'il se rapproche un peu plus de... pour pouvoir vivre, on va dire politiquement, hein, je parle, hein, pour pouvoir vivre, on le voit plus du côté de ce glissement global du gouvernement, enfin, ou de la France, au niveau votant, en tous les cas, vers une extrême, et lui, il cherche sa place à ce niveau-là, voilà. Et donc, ça se traduit, ça se traduit, pour l'instant, en tous les cas, la droite à Béziers existe quasiment plus.
Oui, voilà. Justement, quand tu parles de voix de droite un peu discordante par rapport à Robert Ménard, tu penses à qui, par exemple ?
Pascal Resplandy, qui avait mené qui était un des opposants dans la mandature d'avant, avant 2020, qui était le plus virulent avec l'élu du Parti communiste et l'élu du Parti socialiste. Il était un vrai républicain, on va dire, en tous les cas, il laissait rien passer. Aujourd'hui, il a jeté l'éponge, il a dit qu'on avait marre de la politique, c'était trop trop dur et trop violent. Voilà.
Oui. Et donc, oui.
Mais il était très seul. Il était très seul parce que je crois qu'ils ont eu que 9% de voix aux dernières élections. Quoi.
Tu peux me rappeler. Tu peux me rappeler son nom, s'il te plaît.
Pascal Resplandy.
D'accord. Bon, je le connais pas, mais et s'agissant de l'ancien maire Raymond Coudert.
Lui, il a disparu un petit peu des radars. Il était plus dans le coup. Enfin, il n'est pas. Pendant longtemps, il était élu au conseil municipal de 2014 à 2020. Il venait quasiment jamais aux réunions du conseil municipal. Il a un peu laissé. Je pense qu'il a mal pris que le fait qu'il gérait depuis deux mandats la ville. Je crois qu'il a très mal pris qu'il ait de se faire doubler par Robert Ménard. Surtout qu'une partie de son staff de Robert Ménard, c'était des anciens de Raymond Coudert, c'est-à-dire l'ancien maire.
Oui, parce que.
Je pense que c'est ça.
Oui, parce que Raymond Coudert, c'était un maire, alors de mémoire, je ne sais plus s'il était UDF, enfin en tout cas à partir de 2002, il était...
De droite.
Il était élu sous les couleurs de l'UMP, etc. Enfin voilà, comme tu dis, c'était un maire de droite. On va revenir un peu sur le vote RN, Rassemblement National, dans le Midi, comme on dit. En 2012, dans l'ancienne région là, du Languedoc-Roussillon, qui s'appelle aujourd'hui l'Occitanie, dont Béziers fait fait partie, hein, Marine Le Pen. Marine Le Pen récolte 5,5% de plus qu'au niveau national et progresse de 65 000 voix en 10 ans. Et il y a Emmanuel Négrier qui est professeur à l'université de Montpellier qui en parle dans son texte qui s'appelle Le Pen et le Peuple et qui est publié dans la revue Pôle Sud. Emmanuel Négrier parle de désarroi pavillonnaire d'une région en intense transformation démographique. Il évoque aussi le sentiment de dépossession de l'exploitant agricole retraité et la désillusion du jeune ménage. Il explique enfin que les électrices et les électeurs du Rassemblement National font référence à la disparition de l'autorité, l'identité de la France menacée et à la pression fiscale excessive. Donc Daniel, pourquoi est-ce que ces thèmes prospèrent-ils spécialement dans le Biterrois et plus généralement dans une partie du Languedoc ?
Bah, disons que il y a aussi la... les transformations économiques. Pendant longtemps, la région a vécu sur les terres agricoles et notamment le vin. Le vin, notamment le passé un petit peu de cette région, c'était le vin qui venait d'Algérie, donc avant 62, et qui était vendu très largement un peu partout. Et petit à petit, ça a un peu disparu. Il y avait des vignes, mais il y a de moins en moins de... Comment dire, on peut dire que le vin de l'Hérault n'était pas forcément le vin que les gens recherchaient spécialement. Voilà. Et donc, du coup, petit à petit, ça a décliné. Et je pense que le passé glorieux de la région, en tous les cas, a joué par rapport à cette installation de villas, de maisons individuelles, et puis un manque de travail, un manque d'activité économique, qui, pour une part, est remplacé sur le littoral, c'est-à-dire autour de la mer, mais d'un point de vue touristique, uniquement. Donc là, il y a de nouvelles affaires qui se font jour. Et puis, comme il y a l'apparition de la migration, à la fois étrangère, mais à la fois aussi de gens qui viennent d'autres régions, qui viennent, on va dire, au soleil, il y a aussi ce mélange de populations qui fait que une partie des gens du Midi se disent envahis dans cette situation, quoi, il me semble. Et donc s'en prendre aux autres d'une manière globale, s'en prendre aux cités, s'en prendre et la vision classique du bouc émissaire.
Oui, tout à fait. Mais alors, tu disais par exemple que le Biterrois vivait pas mal de l'importation de vin algérien avant 1962. Ouais. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y avait plus vraiment de production locale ?
Si, il y avait, mais c'était un mélange. C'est-à-dire qu'ils importaient le vin, ils le coupaient avec le vin récolté et ils le vendaient sur le marché. Voilà.
D'accord.
Voilà. Donc, du coup, c'était une bonne affaire, on va dire. Parce que je suppose que le vin qui arrivait était. Le coût moyen pour ce vin était moins cher que le coût moyen de l'exploitation en France. Je suppose. Je ne suis pas un spécialiste. Je suis juste un réalisateur qui connaît un peu, qui habite dans les environs depuis seulement une dizaine d'années. Donc je suis pas non plus le grand spécialiste d'une analyse sociologique de la région.
Oui, non, tout à fait. Après, par exemple, s'agissant du donc de la viticulture. Moi, j'avais lu, par exemple, que quand il y avait eu la révolte des vignerons en 1907, il y avait un peu cette dénonciation de la concurrence de vins, alors qui pouvait être étranger, mais qui pouvait aussi provenir d'Algérie. Il y avait aussi tout un... Alors après, je suis pas spécialiste non plus de la question, mais il y avait aussi des vins qui étaient coupés, comme tu le décris, et donc, enfin, pour les agriculteurs et, enfin, en tout cas pour ceux qui sont pour tous les gens qui sont révoltés en 1907, il y avait quand même une dénonciation de tout ça. D'ailleurs, je me souviens plus honnêtement, je suis pas spécialiste en viticulture, donc je sais pas comment s'appelle le processus qui consiste à couper le vin. Donc, je vais m'abstenir de trop.
Non plus.
Ah ben voilà. Bah, du coup, on va pas trop approfondir le sujet. Après, juste un tout petit détail, hein, quand même, c'est que depuis 60, parce que en fait, faut comprendre quand même, pour moi qui connais quand même, je connais un petit peu le sujet quand même. Faut savoir que l'Algérie, en fait, continue de produire, voire d'exporter du vin. Hein. C'est pas parce qu'il y a eu l'indépendance que l'Algérie ne fait plus ça.
Mais ça s'est arrêté en grande partie, quoi. Ça a vraiment diminué, quoi. Ah oui, oui, oui.
Ça, je veux bien le croire.
Il y en a très très peu. Moi, j'étais en Algérie, j'ai vu des anciens lieux où il y avait des vignes. Il y en a quasiment plus. Hein.
D'accord.
C'était remplacé. Ouais.
D'accord.
Non, il y en a un peu, mais très très peu, quoi.
D'accord. Alors là, je vais citer l'exemple d'une autre ville occitane qui est dirigée actuellement par le Rassemblement National. Donc c'est Beaucaire, dans le Gard. Alors on a donc dans cette ville Julien Sanchez. On avait, parce que du coup il a dû abandonner son poste, hein, vu qu'il est devenu député européen aux dernières européennes là. Donc Julien Sanchez est vice-président du Rassemblement National, c'est l'un des vice-présidents, qui a donc dû passer le pouvoir à l'un de ses adjoints après son élection au Parlement européen en juin dernier. Et dans une tribune qu'il a publiée le 1er septembre 2014, hein, parce qu'il a passé un bon moment au pouvoir, hein, oui je l'ai dit, il a passé 10 ans, dans une tribune qu'il a publiée le 1er septembre 2014 sur le site du Rassemblement National, à l'époque Front National, il alertait le gouvernement, hein, je cite, « le gouvernement et l'opinion publique sur le coût pour les contribuables et la répercussion sur le niveau des enseignements offerts à nos enfants de l'accueil d'élèves dits allophones ». Donc les élèves allophones, c'est les élèves dont la langue maternelle n'est pas le français. Il se disait contraint d'accueillir dans les écoles de sa ville 22 nouveaux élèves étrangers ne parlant pas français, pour la plupart originaires, dit-il, du Maghreb ou bien de nationalité espagnole, grâce à ce qu'il appelle l'Europe passoire et laxiste en matière de naturalisation et de droit du sol. Alors, dans ton film, Daniel, tu montres bien que les écoles publiques de Béziers souffrent quand même d'un manque important de moyens.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, voilà. Et donc, en plus de ça, comme on l'a dit en début d'émission, hein, le maire, donc Robert Ménard, fiche les élèves prétendument musulmans de sa ville en se fiant à leur prénom. Daniel, si tu as des informations plus précises à ce sujet, comment la région Occitanie réagit-elle aux actes de Robert Ménard et de Julien Sanchez dans leurs attaques contre certains enfants et leurs familles? Je rappelle que la région Occitanie est présidée par Madame Carole Delga du Parti Socialiste.
Ils essayent de continuer à donner des subventions d'une manière globale au niveau social. Alors je ne sais pas exactement ce qu'ils font, mais c'est vrai que pour certaines écoles, ça dépend de la région. Alors je ne sais plus trop quoi exactement, parce que je ne connais pas les détails. Mais du coup, ils continuent à faire un travail classique par rapport à des prises de position, ou par exemple le dernier numéro du journal de Béziers, ou l'avant-dernier, je ne sais plus, il y a carrément deux pages pour une école privée hors contrat. Voilà. Alors, c'est pas la même école, parce qu'ils ont essayé de monter une école avec qui n'a pas marché, privée, avec uniforme, levée de drapeau, etc. Donc ça n'a pas marché. s'est arrêté, donc il relance une autre école, voilà, privée, hors contrat, en faisant énormément de pubs, et donc le maire en tant que, et donc ça c'est le tout courant de l'extrême droite, que ça soit à Beaucaire, à Perpignan aussi, à Béziers ou ailleurs, c'est d'essayer de pointer du doigt les endroits où il y a des populations issues de l'étranger en disant c'est la responsabilité, c'est là où il y a les problèmes, et en même temps ils essayent de développer à chaque fois des écoles privées hors contrat ou des écoles élitistes pour des soi-disant autochtones, pour des gens de, on va appeler ça comme ça, pour des gens de leur, voilà, qui de souche, comme ils disent, voilà, comme ils disent, de souche, alors qu'on sait que la souche, quand est-ce qu'elle commence et quand est-ce qu'elle finit, on ne sait pas. Voilà, donc ils parlent comme ça. Et là, bah, c'est clair, et je suppose qu'à Beaucaire, c'est exactement la même chose. Ils doivent être développés d'une manière ou d'une autre, favorisés. C'est-à-dire que, par rapport à la légalité, une mairie n'a pas à développer, à favoriser, financer une école privée.
Oui.
Voilà, surtout hors contrat.
Absolument.
Sauf qu'on peut en faire de la pub dans le journal, voilà. Et ben voilà. Et donc il y a la pub pour d'un côté les subventions pour les écoles sont en diminution ou sont pas au niveau de ce qu'il faudrait faire. Et puis de l'autre côté, on développe des écoles hors contrat chères parce que l'école dont on parle là, c'est je crois à coût de 5 000 euros pour l'année.
Oh là là, 5 000
voilà,
euros.
Voilà, ben oui, mais parce que ben oui, c'est une école privée, voilà, et donc on veut en fait, il y a derrière tout ça cette idée de, ils sont dans l'optique du fameux grand remplacement, donc ils sont toujours dans cette vision identitaire absurde où la population française est en train de se faire dépasser, changer. C'est une vision qui nie les années d'une France d'immigration qui est énorme, puisqu'il paraît que il y a un Français sur trois qui a des origines étrangères, donc un truc comme ça, hein, au niveau des grands-parents, je crois, j'avais lu ça quelque part. Donc c'est une négation d'une réalité au nom d'une soi-disant politique il faut stopper la migration parce que on va être remplacé en France, on n'est plus des vrais Français, etc., etc. Et pour ça, on va essayer de cliver la population en disant les pauvres maghrébins, noirs, étrangers, etc., d'un côté, et de l'autre côté, les bons, soi-disant, français, blancs, dits de souche, etc. Et c'est ça le phénomène. Comment dire? À travers des exemples tout cons, comme cette idée d'une école privée hors contrat, c'est ça qu'il y a derrière, en niant et en refusant d'augmenter les subventions à des écoles publiques, parce que c'est obligatoire heureusement d'ailleurs, c'est obligatoire que tous les enfants, quels qu'ils soient, puissent aller à l'école. Et ça, c'est un bien énorme pour nous. Et ben, on s'aperçoit que voilà, on est là dans une limite de la légalité, on va dire, mais il a droit de le faire. Il a droit de faire de la pub, voilà. Et le problème, c'est que les autres écoles souffrent terriblement, quoi. Les écoles publiques souffrent terriblement. Et là, on peut dire qu'il y a une vision un peu racialiste, hein, de la société.
Tout à fait. Alors honnêtement, déjà ce que tu me dis par rapport à une école qui coûte 5000 euros l'année, j'étais pas prêt, là, j'avais pas trop... Là honnêtement, je savais pas.
C'est les derniers numéros, là. C'est les numéros de d'août et de septembre.
Oh là là, le choc. Oui.
Voilà, non mais c'est simplement ça.
Alors moi, ça me choque très profondément. Et d'ailleurs, je peux te demander d'en dire un peu. Enfin, si jamais tu. Enfin, je peux. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ces écoles déjà? Oui.
Ben là, non. Ah, là, bon. Non, je suis pas préparé. Je D'accord. sais que je l'ai lu il y a 3 jours. Donc, voilà, on oui. en est là.
Oui. Non, mais est-ce que tu connais au moins... Oui. Ouais. Est-ce que tu connais au moins les, enfin, les l'identité de ces, de ce, de ceux qui ont, enfin, des gens qui ont créé cette école hors contrat?
Ah bah celle-là, la nouvelle, j'ai pas, oui. Je sais pas trop là, j'ai pas mené une enquête spéciale, voilà, j'ai juste lu l'article. En revanche, celle d'avant, oui, parce que c'était. Une école qui était a priori liée au milieu catholique parce que, évidemment, Robert et Emmanuel Ménard sont dans ce courant idéologique de la France catholique intégriste ou au minimum ce qu'on appelle traditionnaliste.
Oui.
C'est-à-dire, il y a la messe pour la feria du mois d'août à Béziers commence par une messe, la crèche au sein de la mairie, et puis aujourd'hui, ce que je montre déjà dans le film, mais ça va encore plus loin maintenant, c'est la libération de la ville commence par une messe. Où les drapeaux bleu, blanc, rouge rentrent à l'intérieur de l'église pour célébrer la libération de la ville. Et dernièrement, le 8 mai dernier, la libération, la fin de la Deuxième Guerre mondiale est célébrée et commence aussi par une messe. Mmh. Une messe auquel Robert et Emmanuel Ménard et plusieurs des adjoints sont venus avec leur écharpe bleu, blanc, rouge faire la messe, voilà, au sein de la fusion entre cette France catholique intégriste, elle est claire, voilà, elle donne la voie soi-disant à suivre pour ses électeurs et ce courant-là.
Oui, parce que ça, tu le montres bien dans ton film, hein, où tu filmes une messe. Il me semble que c'est pour commémorer donc la libération de Béziers, effectivement, où
voilà.
On voit Robert Ménard, son épouse Emmanuelle, et effectivement, ça c'est. Alors, il me semble que, on est bien d'accord que c'est lui qui a inauguré ça à Béziers. Enfin, ça se faisait pas avant, ça.
Ah oui, non, la libération de la vie. Y a aucune raison que des catholiques. Que des catholiques, des curés, tout ça, des évêques, tous les responsables religieux célèbrent la libération de la ville. J'ai aucun problème par rapport à ça. C'est très bien, je trouve que c'est une bonne chose. Mais que la mairie, on est quand même dans un pays laïque, que la mairie organise des messes pour commémorer des actes qui sont les actes qui fondent la République française, je trouve ça limite grave.
Oui, c'est clair. Non, mais ça, je peux que te rejoindre par rapport à ça. Et alors, d'ailleurs, je vais encore citer une autre ville.
c'est
pas grave. En fait, je suis obligé de citer une autre ville occitane qui est sous la coupe du Rassemblement national. Hein, voilà. Donc, tu en as parlé très très brièvement. C'est Perpignan. Avec Louis Alliot qui est maire de cette ville. Depuis 2020, hein, il a été élu aux dernières municipales. Louis Alliot, tout comme Julien Sanchez, ancien maire de Beaucaire et vice-président du Rassemblement national. Et alors, comme Robert Ménard, Louis Alliot rend hommage, hein, ça c'est un autre aspect de ce qui nous pose problème. Comme Robert Ménard, Louis Alliot rend hommage à des anciens de l'organisation armée secrète et plus généralement à des nostalgiques de l'Algérie française en édifiant par exemple, ça c'est à Perpignan, une place en l'honneur du capitaine Pierre Sergent, ancien chef de l'OAS Métropole. Voilà, c'est ça. Parce que l'organisation armée secrète, c'est l'OAS, et effectivement, il y avait une branche de l'OAS en métropole, dirigée
en France,
par...
Quoi.
Comment ? Oui ?
En France, quoi.
Oui, en France métropolitaine, puisque de base, l'OAS a vu le jour en Algérie, même pas, puisque l'OAS... Oui, en Algérie française, mais l'OAS a vu le jour même carrément en Espagne franquiste. Hein, les débuts de l'OAS, c'est à Madrid. On pourra... Voilà, on va pas faire toute l'histoire de cette organisation-là maintenant. Mais dans tous les cas, Louis Alliot lui rend hommage en édifiant une place en l'honneur de Pierre, du capitaine Pierre Sergent. Et alors, à Béziers, alors ça date de l'ancien maire, Raymond Coudert.
Oui.
Il y a eu en fait la construction en 2008 d'une stèle en mémoire de 4 membres de l'OAS exécutés alors pour des attentats contre le général de Gaulle. Enfin, un attentat en particulier, me semble-t-il, c'était celui du petit Clamart, et aussi pour le meurtre d'un commissaire de police à Alger. Autre symbole assez frappant, c'est la débaptisation en 2015 de la rue du 19 mars 1962 à Béziers. Hein, le 19 mars 1962, c'est la date de la signature des accords d'Évian qui reconnaissent l'indépendance de l'Algérie. Cette rue a été nommée à cette époque-là, en 2015, donc rue du commandant Denois de Saint-Marc, en l'honneur donc de cet ancien officier du 1er régiment étranger parachutiste qui a participé au putsch d'Alger en avril 1961. Et le journal du Biterrois a été utilisé pour légitimer cet acte qu'on peut qualifier quand même de gênant, justement par rapport à l'histoire et aussi par rapport aux relations franco-algériennes. Donc Daniel, comment expliquer cette instrumentalisation de l'histoire par des élus membres ou en tout cas soutenus par le RN comme c'est le cas, par le Rassemblement National comme c'est le cas pour Robert Ménard, et surtout quel signal cela peut-il envoyer au-delà de Béziers?
Bah, c'est toujours la même chose, hein. C'est la grandeur de la France, donc toute extrême droite pleure la fin de la grandeur de la France, et notamment de ses colonies. Donc là, en France, il y avait une colonie importante, une colonisation importante par rapport à l'Algérie, et donc la fin de cette France... et que les Algériens retrouvent leur indépendance, gêne terriblement cette vision de colonisation, de grands pays qui dominent une partie du monde, qui exploitent les populations. Et donc cette fin leur pose problème. Voilà. Et ils sont derrière la fin de la grandeur de la France. Pour eux, c'est insupportable. Voilà. Et donc, du coup, il faut arriver à dire c'était bien, c'était un beau pays, c'était nous, on était bien. On est dans cette vision-là, et du coup, on va favoriser tout ce qui est anciens combattants, une partie des harkis qui ont combattu avec la France contre l'indépendance. Finalement, on va les honorer. Et là, Robert Ménard, comme d'autres, vont contribuer à dire que toutes les personnes qui ont défendu la France ou la grandeur de la France et ses colonies contre l'État français, et notamment contre le général de Gaulle, puisque ils ont failli le tuer, ce sont des résistants qui défendent la France. Voilà. Et donc Robert Ménard, comme d'autres, comme Louis Alliot, comme toute l'extrême droite, favorise et développe cette vision de la France. Donc là, on honore des assassins. C'est-à-dire que ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que c'était des assassins.
Absolument.
Les quatre portraits qui sont au cimetière à Béziers, auxquels Robert Ménard vient faire des discours juste devant, ce sont des assassins qui ont voulu tuer le président de la République française.
Oui.
Et que d'autres comme c'est quoi Camille Blanc, qui était le maire de la ville de Haute-Savoie.
Évian, du coup, là où il y a eu les
Évian, où là où il devait y avoir les accords. Donc l'OAS a tué un maire, oui, de France parce que il y avait les accords d'Évian entre le FLN et la France. Et ben l'OAS a tué là, entre autres. Et ben on continue à honorer ces gens-là en disant que c'est des vrais résistants. Et c'est là où on peut dire que là on est on laisse faire cette histoire, dès qu'il y a des gens qui vont critiquer le fait que ces gens-là ce sont des assassins, on va dire qu'on noircit le rôle de la France. Voilà. Et ça, c'est omniprésent dans le journal de Béziers, c'est-à-dire que la France d'avant, alors c'est la France coloniale par rapport à l'Algérie, mais c'est d'une manière générale, c'est toute la France d'avant. On est dans cette idée comme quoi, avant, la grandeur de la France est en train de disparaître. Ce qui est vrai au niveau mondial, hein, c'est vrai que les grandes puissances d'avant sont en train de changer. Pourquoi ? Parce qu'il y a des films, des pays qu'on dit émergents, d'autres pays qui commencent à se développer et qui commencent à avoir une part importante dans la vision mondiale et internationale du monde. Voilà. Et donc, du coup, la France, qui est finalement un tout petit pays par rapport au reste du monde, parce que ça, il faut quand même que ça soit clair pour tout le monde, c'est quand même un petit pays, sa grandeur est forcément en diminution. Et moi, je trouve qu'une grandeur qui est bâtie sur de la violence, des meurtres, des colonisations, des conquêtes de territoires, bah, je trouve ça plutôt bien que cette grandeur a disparaisse pour rester sur, on va dire, sur nos valeurs qu'on a déjà à défendre, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que toute l'extrême droite, elle est derrière cette idée-là, quitte à honorer des assassins.
Oui, parce que quand tu dis assassin, en fait, bon, déjà, oui, l'OAS a quand même tué beaucoup de monde, hein, ça c'est évident.
Ben oui.
Concernant les quatre là qui sont sur la stèle, je vais citer les noms parce que je les connais par cœur. Il y a Jean-Bastien Thiry, je connais plus exactement son grade, je crois qu'il était colonel dans l'armée. Il y avait aussi Claude Piex. Il y a Claude Piex là sur la stèle. Il y a aussi le lieutenant Roger de Gueldre.
Alors c'était un des organisateurs. C'est le premier là, comment il s'appelle?
Bastien Thiry.
Oui, Bastien Thiry a été plutôt l'exécutant. C'est lui qui a essayé d'assassiner De Gaulle.
Oui, au petit Clamart.
Au petit Clamart. Mais De Gaulle, je crois que c'était lui un des principaux organisateurs de cette violence armée.
Alors en fait possible, mais alors ce qui est spécial, faut se dire que les trois là, donc Roger de Gueldre, Claude Piex et aussi d'ailleurs le sergent Albert Dovkar, en fait eux ils ont été exécutés du coup pour avoir tué un commissaire de police qui s'appelait Gavoury, hein, nom de famille c'était Gavoury, et c'était à Alger. Alors j'en parle parce que ça remonte, hein, mais il y a 5 ans à Publico, on avait passé un film qui s'appelait OAS, une histoire interdite, réalisé par Georges Marc Benhamou. Et effectivement, ce film, il revient quand même sur tout ça. Jean-Bastien Thiry, pour sa part, donc, qui était colonel, hein, lui, c'était l'organisation de l'attentat du petit Clamart, mais qui a échoué, parce qu'en fait, le général de Gaulle a essuyé plusieurs attentats de la part de l'OAS, et il en a essuyé jusqu'en 1964, hein, je crois, hein, avec, il y avait eu un attentat raté à Toulon, mais dans tous les cas, le général de Gaulle a quand même essuyé plusieurs tentatives d'assassinat de la part de l'OAS. Alors, juste une petite dernière chose, parce que alors il est 12h35, normalement on a 1h30 de créneau, mais en fait là l'émission est déjà elle est quasiment terminée. Moi j'ai évoqué avec toi tout ce que je souhaitais. Il y a une dernière chose qui me vient à l'esprit. J'ai pas tout compris. Il me semble que la rue de Noailles de Saint-Marc, elle a pas été rebaptisée, de nouveau débaptisée, parce que j'avais vu passer ça, mais en fait
elle est toujours là. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une commémoration, pas une commémoration, mais les militants du mouvement de la paix et de différentes associations recouvrent avec une photo un bout de carton, recouvrent la rue de Noailles de Saint-Marc par la rue du 19 mars 62, généralement chaque 19 mars, quoi. Donc il y a une sorte de rassemblement et on recouvre cette rue pour dire on maintient le 19 mars 62 parce que c'est la fin officielle de cette guerre, cette sale guerre en Algérie, quoi. Voilà. Donc mais c'est toujours la même rue, hein, elle n'a pas changé.
Oui,
c'est toujours la même rue.
Tout à fait. Voilà. Mais d'ailleurs, dans ton film, en fait, on voit à un moment donné qu'il y a donc cette commémoration. Enfin, pas une... cette commémoration dont tu parles, avec effectivement le nom de la rue qui est masqué, enfin avec une plaque qui est posée par les participants et les participantes et les participants, où il y a de nouveau marqué rue du 19 mars 62, alors qu'effectivement, Robert Ménard a changé son nom, et puis on voit que la police municipale intervient quand même. Toi, d'ailleurs, t'es plus ou moins empêché de filmer à ce moment-là. Et c'était pendant, c'était en quelle année du coup, parce que c'était au moment de.
Là, j'ai filmé plusieurs fois, mais là, ça devait être juste après le Covid, puisque ça devait être en 2021.
Ouais, parce qu'effectivement,
2021, à mon avis, ça devait être 2021.
Ouais, parce que à ce moment-là, effectivement, les manifestations étaient quand même, étaient
rigoureuses. Oui, on disait qu'il fallait se mettre à 1m50, etc. Alors que le policier se mettait à 20 cm devant moi, pas de film.
Oui, ça on l'a bien vu, donc on le verra de nouveau, enfin on le verra encore mieux je pense samedi 19 octobre à Publico, là, à la librairie du Monde Libertaire à 16h. Alors pour ma part, moi j'ai terminé ma série de questions. Si toi t'as quelque chose à rajouter, honnêtement on a du temps devant nous, si t'as quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit là.
Il faudrait peut-être dire le film est basé, comme je l'ai dit, autour du journal, et on s'aperçoit, journal de propagande, on s'aperçoit aussi que ça va un peu plus loin que simplement de la propagande, parce que dans la dernière partie du film, on est dans l'aspect dénonciation, c'est-à-dire que ce journal sert aussi à faire de la dénonciation. Il y a pas que le journal, il y a aussi les affiches dans les rues. Il y a des dénonciations publiques avec le nom. C'est-à-dire que ce journal est un journal de combat pour dénoncer des gens, pour essayer de museler toute l'opposition. Et en fait, ça révèle ce que veut l'extrême droite d'une manière générale. C'est-à-dire plus du tout d'opposition dans une ville et puis dans un pays finalement. C'est un trait de caractère, je pense, de l'ensemble des villes qui sont dirigées par l'extrême droite. Et l'avenir? J'ai bien peur que, vu la situation politique globale en ce moment, en 2026, ce sont les prochaines élections, j'ai bien peur que le courant qui est en train de se développer amène, au moins dans la région autour de l'Hérault ou dans tout le littoral méditerranéen, mais aussi dans d'autres villes du nord ou de l'est, un nombre incroyable de villes dirigées par l'extrême droite. Et ça, c'est vraiment ma peur de l'avenir. C'est-à-dire que tout un courant, tout un glissement est en train de se faire, et que la résistance n'est pas à la hauteur. Enfin, il me semble, je pense que la résistance à ce phénomène est encore trop faible.
Oui.
C'est-à-dire que souvent, on est encore, comment dire, à chaque élection, depuis une vingtaine d'années, on voit que ça augmente, leur pourcentage augmente, et donc pendant le premier tour, généralement, il y a une angoisse qui se fait, voire des manifestations, voire des choses comme ça, et puis hop, ça redescend parce que il y a la vie politique, et puis ça revient un peu plus aux élections d'après, et leur pourcentage augmente, il y a la dédiabolisation, il y a le phénomène qu'une partie reprenne leurs idées, et hop, ils continuent à augmenter, ils continuent à avoir de l'influence, etc. Et le phénomène est, y compris là en 2024, à elle-même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça y est, quelque part... on est un peu inquiet parce que ils sont quand même nombreux, de plus en plus nombreux au sein de l'Assemblée nationale, mais comme c'est un bordel complet pour pouvoir gérer comment des lois machin voilà avec il y a pas de groupe majoritaire voilà aujourd'hui donc du coup ça va être un peu compliqué a priori par rapport au gouvernement. Il faut qu'il fasse des alliances. Les alliances, c'est plutôt vers l'extrême droite. Et oui. Tout ce phénomène-là risque de contribuer d'un côté à écœurer des gens du monde politique en général, parce qu'on a quand même eu une élection où c'était la gauche qui était arrivée en tête, et que finalement, c'est un gouvernement de droite, enfin, centre-droite extrême, on va appeler ça comme ça, pour ouais. être gentil. Et du coup, les électeurs ne s'y retrouvent pas. Et j'ai peur que d'un côté il y aura de moins en moins de gens qui vont voter, et de l'autre côté la solution dite d'avenir risque de l'emporter, et notamment à travers des vies. Et je peux assurer que l'opposition dans toutes les villes dirigées par l'extrême droite est terrible. Terrible. C'est-à-dire qu'on n'est plus on est plus uniquement avec une gestion de droite. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qui est subvention est terminé, tout ce qui est possibilité d'avoir un local est terminé, tout ce qui voilà, c'est de la limitation globale de toute l'activité de toute opposition. Et ça, c'est un véritable danger.
Tout à fait. Alors, du coup, quand tu dis que tu es inquiet par rapport au fait que d'autres villes de la région risquent de tomber sous la coupe du Rassemblement National, entre
pas autres... de la région, ouais. Hein, pas uniquement de la région, mais un peu partout.
J'entends bien.
Malheureusement, un peu partout.
Ouais, j'entends bien. Mais tu penses, alors, spécifiquement dans le cas de, je sais pas, ouais. de l'Occitanie, du Languedoc, ou voilà, tu ouais. penses à quelle ville, par exemple, si jamais t'en as certaines en particulier en tête?
Ah, il faut voir que, par exemple, il y a eu plusieurs endroits où les villes, Agde, Sète, mais toutes les autres petites villes autour hein, de l'Hérault. Par exemple, on ne se rend pas compte, mais tous les élus députés, je crois, des Pyrénées-Orientales et de l'Aude sont des élus RN. Dont certains, je crois, ont été élus dès le premier tour.
D'accord. De l'Aude, tu dis?
De l'Aude, ouais. Mais dans l'Hérault aussi, il y a eu, je crois, deux endroits où c'était au premier tour. Mmh. Et il y en a d'autres, évidemment, dans le Gard, pareil. Il y en a d'autres dans les Bouches-du-Rhône, il y en a dans le Var, il y en a dans les Alpes-Maritimes. Donc de plus en plus, il y a des élus qui sont élus soi-disant alors au premier tour ou juste après, alors que l'ensemble des partis politiques n'ont pas appelé les électeurs à voter pour eux ou voter contre eux.
D'accord.
Donc on voit ce phénomène, et donc j'ai bien peur que, vu la situation politique d'aujourd'hui, une grande partie de ville change.
D'accord. Alors, justement, on va pas tarder à rendre l'antenne, mais j'ai peut-être une. Ouais, non, mais enfin, bon, après, j'ai peut-être une dernière question quand même qui me vient à l'esprit, là, parce que je t'ai écouté attentivement. Moi, quand j'ai regardé ton film, faut savoir qu'il est en deux parties. Il y a aussi sur la plateforme Porta Vista, là, sur lequel il est hébergé, il y a aussi un mix entre la première et la deuxième partie dans un troisième.
J'ai fait une version courte, dite courte. Qui fait 1h44, parce que le film, à l'origine, il fait deux fois 1h30, donc c'était trop long pour le diffuser d'une manière à part, exceptionnellement, dans des associations qui pouvaient faire, par exemple, une journée complète, une après-midi complète, en disant première partie, on fait un pro entre les deux, puis une deuxième partie, et puis débat. En dehors de ça, c'était quasiment impossible. Donc on a fait une version d'1h44, qui, c'est celle-là qu'on présentera à Publico là pour
Daniel,
je pense. Non, c'est les deux versions.
Daniel, alors, parce que bon, je peux en parler parce que je fais partie des personnes qui organisent l'événement, mais après, moi j'avais prévu de passer, nous avions prévu de passer la première partie.
Ah d'accord. Voilà. Ah oui, c'est ça. Oui, d'accord. Ok. D'accord. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème pour moi. De toute façon, je peux parler surtout.
Oui.
En tous les cas, on a fait une version d'une heure 44 qui essaye d'être diffusée dans les salles de cinéma dans les associations. Voilà.
Ouais. Et donc, ton film, on peut le retrouver sur la plateforme Portavista.fr. Donc, si jamais vous souhaitez le voir, donc, alors bon, bah, faut payer, hein, ça, bon, c'est quand même, voilà. Alors, cependant.
Ouais, c'est 5 euros. Hein.
Ouais, c'est 5 euros l'abonnement mensuel. Après, il y a moyen de prendre un abonnement à l'année si jamais vous le souhaitez. Mais dans tous les cas, c'est 5 euros par mois pour pouvoir voir les films qui sont hébergés dessus. Pardon. Dans tous les cas, ton film, du coup, il sera projeté, comme je l'ai dit, le samedi 19 octobre à 16h à la librairie du Monde Libertaire Publico, au 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris, au métro République Oberkampf et Filles du Calvaire. Nous, concernant l'émission, en tout cas, moi, comme je t'ai dit, j'ai terminé ma série de questions. Si tu as encore autre chose à rajouter, n'hésite pas, hein, parce qu'il est midi 48, bon, on a le temps. Oui.
Non, ça va.
C'est très bien. Dans ce cas, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Vous avez rendez-vous à 14h30 avec l'émission Les Oreilles Libres. Et je vous rappelle que vous pouvez nous soutenir financièrement la radio, en vous rendant sur radio-libertaire.org dans la rubrique Nous soutenir. Vous pouvez y télécharger le bon de souscription et le retourner complété au 145 rue Amelot, 75011 Paris, ou envoyer un chèque à l'ordre de DMC. Donc, je vous rappelle que notre émission, notre nouvelle émission, qu'on a inaugurée avec toi, Daniel, et honnêtement, j'en suis très très heureux. Cette nouvelle émission est présente les deuxièmes vendredis de chaque mois à 11h30 sur Radio Libertaire. Je rappelle que Radio Libertaire, c'est le 89.4 FM en Ile-de-France. C'est aussi sur Internet, sur radio-libertaire.org. Et sur anarchiste.info/radio/libertaire pour nous écrire, comme je l'ai expliqué en début d'émission. Vous pouvez nous envoyer un mail à médias-et-antifascisme@protonmail.com. Quand je dis médias et antifascisme, c'est médias au pluriel et antifascisme au singulier. @protonmail.com. Vous pouvez aussi nous écrire sur notre compte Facebook qui, comme je l'ai dit en début d'émission, n'a pas changé de nom. Il porte toujours le nom de l'ancienne émission Actualités Antifascistes. Et vous pouvez aussi nous écrire sur X, anciennement Twitter, via le @media-antifa, média au pluriel, -8, antifa au singulier. Et si vous voulez nous écrire par courrier, c'est possible aussi, à l'adresse de la librairie du Monde Libertaire Publico, au 145 rue Amelot, 75011, Paris. La prochaine émission, c'est le vendredi 8 novembre à 11h30. Le sujet n'est pas encore tout à fait défini, donc de toute façon, on communiquera sur tout cela très prochainement. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux que j'ai cités, sur le site de Radio Libertaire aussi. Envoyez-nous des mails ou écrivez-nous si jamais vous voulez avoir plus de nouvelles. On a rendez-vous, nous revenons à l'antenne Médias et Antifascisme le vendredi 8 novembre à 11h30. Pour ce qui est de ton film, Daniel, donc comme je l'ai dit, il est projeté le samedi 19 octobre à 16h à la librairie du Monde Libertaire Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris. Donc, merci beaucoup à toi, Daniel, pour ta participation à cette émission. J'espère tout simplement que ça t'a été... j'espère que l'émission, le concept en tout cas, t'intéresse, et j'espère que notre interview s'est bien déroulée pour ta part.
Oui, il n'y a pas de souci.
En tout cas, merci à toi, Daniel. Raccroche pas, ne quitte pas, je te prends hors antenne quelques minutes. Dans tous les cas, merci beaucoup à toi. Merci à toutes et tous de votre écoute de notre émission et de Radio Libertaire. Je vous donne rendez-vous le vendredi 8 novembre à 11h30, donc pour notre prochaine émission, et aussi donc le samedi 19 octobre à 16h. À la librairie du Monde Libertaire Publico pour la projection du film de Daniel Béziers, L'envers du décor. Merci beaucoup et à bientôt sur Radio Libertaire.
capitaine, les Noëls à Paris avec la petite marraine, et mémé qui grimpait tous les jours 6 étages en comptant haut et fier ses années de veuvage. Galerie des jardins où vous nous déguisiez comme dans les contes de fées, mais cachés sous les jeux il y avait les absences, une maman, des parents qu'on tenait en silence, les tabous des familles, les secrets, les mystères n'en finiront jamais de faire tourner la terre. Allez, venez danser, ne restez pas assise aux mademoiselles timon à la peau toute grise. Allez, danse ma Denise qui parlait le langage merveilleux des étoiles sans poser tes bagages. Il y avait vos prénoms qui résonnent dans ma tête, les tantes Louise et Lily et Thérèse et Minou, les Pierre et Paul et Jacques et les talons d'Yvette, les cousins, les frangins, les hivers, les nounous. Mais cachés sous les jeux, il y avait les absences, une maman, des parents qu'on tenait en silence, les tabous des familles, les secrets, les mystères n'en finiront jamais de faire tourner la tête. J'ai plongé dans les pavés, me suis éclaté la tête, j'ai saigné sur mon passé et la rue est sous mon être.
Si des gitans un jour lisant dans tes mains Paul, machinalement ont vu le printemps se faire la malle, cherche pas, c'est à cause de la poisse, poisse. Si par hasard tu pars peinard pour les Antilles, cousu de pognon, chaussé de vison ou d'espadrilles, que t'es laissé au bout du quai tes vieilles misères, et qu'en oiseau ou en bateau tu te fasses la paire, cherche pas, t'auras toujours la poisse, la poisse, la poisse. par hasard dans un bazar tu piques la boisse. Change de trottoir et va-t'en voir ce qui se passe en face. Comme au poker, si t'as qu'une paire qui vaut 10 balles, sois pas ballot, fous pas au pot ta bonne étoile. N'oublie pas, on fréquente pas la poisse. Si par hasard ta vieille guitare jouait plus en mesure, et si le bon Dieu fermait tes yeux à la nature, si ton contrat s'arrêtait là et que tu voyages pour ce pays où, comme on dit, y a plus de bagages, t'en fais pas, tu n'aurais plus la poisse, la poisse, la poisse. La poisse.
Oui. Radio Libertaire 89.4.
L'amour, 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 toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, il aime le barata. Jusque dans les WC, j'en peux plus par pitié. Faudrait changer de disque, entreprise à haut risque.
Les curés en chaleur, les idoles en pleurs. Les mêmes et les plus louches n'ont plus ça à la bouche. Oh, de grâce, arrêtez de vous badigeonner. De cette pub idiote, j'en ai plein la culotte.
L'amour c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos. L'amour c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos. Barre de dégoulinance, tribouillard pleurnichant. Délicat militaire, épargnez nos vos glaires.
Vénus au statut cruise, mais la donc en veilleuse. Va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques.
l'amour, 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 toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le baratin. Vénus aux statues creuses, mais la donc envieuse. Va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour, c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos.
J'ai pris à Maquis son costume, mais sa complainte sans appel, qu'il se la chante à Whitechapel. Je suis allergique à la brume. J'ai acheté avec les rentes que me rapportent mes chansons un taulier de barbizon, une guinguette pas marrante, même au plus beau de la saison. C'est pour mes belles indifférentes que je voulais mettre en prison. Ces filles-là sont toutes celles qui, jadis, quand j'avais du cœur, m'assassinaient d'un air moqueur, ou bien se prétendaient pucelles. Leur prénom, c'est monnaie courante. L'important, c'est qu'elles soient là, en frêle robe de gala, et qu'elles soient restées charmantes. Mais Virginie de cinéma,